BW. Vue d'Allemagne.
Les uns veulent ouvrir les magasins le dimanche pour relancer l'économie, les autres insistent sur le caractère sacré du repos dominical et ça fait 1700 ans que ça dure. Dans ce numéro de Vue d'Allemagne, on fait le point sur le débat récurrent autour du travail le dimanche qui connaît un regain à la faveur de la crise sanitaire. En deuxième partie de ce magazine, on vous emmène visiter l'Acropole, ou plutôt les travaux sur ses voies d'accès qui menacent de défigurer ce joyau de la culture grecque antique. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzé au micro, willkommen et bienvenue. C'est un conflit presque aussi vieux que la tradition elle-même, celui qui oppose les partisans du dimanche chômé, consacré au culte, à la famille et aux loisirs, à ceux du dimanche travaillé, principalement l'ouverture des commerces. Le débat a refait surface ces derniers mois en Allemagne en raison de la fermeture forcée des magasins pendant les périodes de confinement. Au nom de la relance économique, l'Association allemande du commerce, le HDE, a lancé en juin un appel à détabouiser le dimanche et à permettre l'ouverture dominicale des magasins jusqu'à la fin de l'année. Stefan Genz, son président, s'en expliquait déjà en avril au micro du Deutschlandfunk.
Nous pensons qu'il est indispensable en ces temps de crise de mettre de côté les tabous de pensée. Il faut que nous ayons une autre relation au travail du dimanche sans pour autant oublier complètement nos valeurs fondamentales.
Le HDE met en avant le fait que de nombreux acteurs économiques sont déjà autorisés à travailler le dimanche, comme la gastronomie, les musées ou l'industrie. Mais pour l'ancien syndicaliste Wolfgang Uhlenberg von Daven, le dimanche doit rester un jour à part.
On dit toujours qu'il faut libérer le dimanche, mais le dimanche, c'est quand même une question économique, mais aussi une question de la vie familiale. Traditionnellement, on travaille de lundi jusqu'au vendredi, on fait le repos le samedi, dimanche, mais aujourd'hui, il y a des temps de travail très flexibilisés. Alors, c'est pour cela qu'il faut quand même garder certaines lignes pour protéger la vie familiale aussi.
Face aux arguments économiques, il y a le poids de la tradition. Celle du repos dominical remonte à l'an 321, il y a donc 1700 ans. C'est l'empereur Constantin qui a décrété le repos le jour du soleil. Le mot allemand Sonntag, Sonne veut dire soleil en allemand, y fait d'ailleurs directement référence, comme l'explique le pasteur Ralf Stroh. Il est spécialiste des questions d'éthique économique et sociale au sein de l'Église protestante d'Allemagne.
Constantin n'était pas chrétien. Il y avait à l'époque une religion du dieu soleil invaincu à laquelle il s'identifiait et qui était surtout populaire parmi les soldats. À cette époque, il était particulièrement important d'avoir le soutien des religions, c'est-à-dire des dieux. C'est pour ça que Constantin a prévu un jour de congé pour toutes les religions.
Le dimanche s'est donc établi comme le jour dédié au culte, on parle en français du jour du Seigneur, sur un consensus qui a duré plusieurs siècles. Mais avec la Révolution française puis l'industrialisation, les tentatives de mettre fin au dimanche chômé se sont multipliées dans les pays européens, explique encore Ralf Stroh.
On a dit que les machines facilitaient le travail des gens, mais elles étaient si chères que de nombreux propriétaires d'usines ont voulu les rentabiliser en les faisant tourner 24 heures sur 24. Et ils ont voulu faire travailler les ouvriers tous les jours.
C'est à cette époque qu'une coalition inédite a vu le jour entre les églises et les syndicats.
Les syndicats avaient intérêt à ce que les travailleurs puissent bénéficier d'au moins un jour de repos par semaine. C'est pourquoi ils ont fait campagne pour le dimanche libre contre les propriétaires d'usines et les industriels. Et les églises ont dit « Nous avons aussi besoin du dimanche pour célébrer la messe, mais aussi pour que les gens puissent trouver le repos, même s'il s'agit en fait davantage de convivialité. »
Depuis 1919, le repos dominical est un principe constitutionnel en Allemagne. Inscrit pour la première fois dans la Constitution de la République de Weimar, il a été repris dans la loi fondamentale de la République fédérale en 1949. La coalition entre églises et syndicats, quant à elle, existe encore aujourd'hui en Allemagne. En 2006 est née l'Alliance pour le dimanche libre, portée par les églises catholiques et protestantes, ainsi que le syndicat des services Verdi, pour le maintien du repos dominical. Cette année-là, en effet, l'ouverture des commerces, jusque-là régie au niveau fédéral, est passée entre les mains des lenders. Résultat, une concurrence accrue entre les régions pour attirer les consommateurs en proposant des horaires de plus en plus flexibles pour l'ouverture des magasins et pourquoi pas le dimanche. Main dans la main, syndicats et églises ont mené des actions pour la préservation du dimanche comme jour de repos réservé à des activités privées et s'il faut travailler alors que ce soit avec une contrepartie financière. En 2009, ce sont encore Verdi et les églises qui ont porté l'ouverture dominicale des magasins devant la Cour constitutionnelle. Avec succès, se souvient Wolfgang Uhlenberg von Daven. Il était à l'époque secrétaire général de Verdi à Cologne.
On a eu toujours des méchantes discussions avec les partis libéraux et aussi avec les représentants du commerce qui voulaient toujours que le dimanche soit ouvert 16 fois l'année pour qu'ils ouvrent les magasins et qu'ils ne devaient pas payer le supplément pour le travail du dimanche. C'était toujours une grande discussion. Mon syndicat, le Verdi, la Confédération unifiée des services, a porté plainte avec les églises, l'église catholique, l'église protestante, devant la Cour constitutionnelle de l'Allemagne fédérale. La Cour a décidé que normalement, le dimanche, c'est garanti et c'est protégé.
Aujourd'hui, la plupart des lenders autorisent 4 dimanches d'ouverture par an, certains davantage, surtout pour les week-ends qui précèdent Noël. Mais l'Association allemande du commerce en réclame davantage en faisant valoir que les commerces ont souffert ces derniers mois en raison des restrictions sanitaires. Un argument qui ne tient pas, selon le syndicaliste Wolfgang Uhlenberg von Daven.
Ce sont des intérêts économiques, ce sont les économes, les nouvelles prêtres de la modernité, les nouveaux religieux. Bon, mais quand même, ça n'est pas accepté. Il y a certaines branches, oui. Certaines branches, par exemple la boulangerie, où parfois on peut ouvrir les magasins le dimanche. Mais même l'argument qu'on ouvre le dimanche l'après-midi les magasins dans la ville, ce ne sont pas eux qui en profitent, parce que les petits et moyens magasins, ils ne profitent pas. C'est ce qui en profite, sont les grands. L'économie démarre, mais il y a différents acteurs dans l'économie. Il y a quelques-uns qui en profitent, il y a quelques autres qui n'en profitent pas.
Le pasteur Ralf Stroh avance de son côté un autre argument pour répondre aux exigences du HDE et des commerçants qu'il représente.
C'est évidemment difficile en ce moment pour les commerces à cause de Corona. Ils ont dû fermer pendant une longue période et veulent évidemment faire à nouveau des bénéfices. Donc ils envisagent d'ouvrir le dimanche. Mais nous disons, quand on a vécu une période épuisante comme Corona, en tant que vendeur ou gérant de magasin, on a aussi besoin de temps pour se détendre, pour reprendre des forces. Si vous ouvrez le dimanche, les gens ne peuvent pas dépenser de l'argent pendant la semaine. Il n'y a pas plus d'argent à gagner, il y a juste plus de travail le dimanche.
L'Alliance pour le dimanche libre a adressé une lettre ouverte aux candidats aux élections législatives de septembre. Elle appelle les prétendants à la chancellerie à protéger le repos dominical. Depuis plusieurs semaines, le mouvement des travailleurs catholiques KAB mène par ailleurs une campagne sous le hashtag « Ohne Sonntag fehlt uns was », sans dimanche il nous manque quelque chose. Ces militants disent non au travail le dimanche. Ils se sont lancés le défi de fabriquer la nappe de pique-nique la plus grande du monde avec des petits carrés de tissu cousus les uns aux autres sur lesquels figurent toutes les bonnes raisons de maintenir le repos dominical. Sonntagmorgen. Sorgen möchte ich mal haben, du verwöhnter reicher Mann. Sonnenaufgang, Sonntagmorgen, sind all die vielen Jahre noch gar nicht so fern. Avoir du temps libre le dimanche et pourquoi pas pour visiter l'Acropole à Athènes. Le débat fait rage en Grèce, dans le monde de l'archéologie, mais pas seulement. Le ministère de la Culture a construit 2 imposants sentiers sur le rocher même de l'Acropole, le monument le plus visité du pays, pour officiellement en faciliter la visite. Un sacrilège cependant pour une grande partie des Grecs qui soupçonnent le ministère de vouloir sacrifier le rocher sacré à la logique du marché. C'est un reportage de notre correspondant Thomas Jacobi à Athènes.
De loin, la vieille dame de 2500 ans est la même. Les colonnes sont là, majestueuses, imposantes. Plus on se rapproche du monument, plus le cœur bat fort. Mais une fois devant les propylées, il s'arrête. La perspective, qui allait des propylées au Parthénon, est balafrée de deux bancs de 6 millibéton qui longent le monument. Longue d'environ 200 mètres, large de 3 à 15 mètres et haute par endroits de 50 cm au-dessus du niveau du rocher. Passerelle de mode, tourniquet, piste cyclable, on ne sait que penser. Pour Vassiliki Eleftheriou du département de l'entretien de l'Acropole, jointe par téléphone, les travaux pour ces deux cheminements étaient inéluctables.
Il n'y a pas que les visiteurs, il y a encore des travaux de restauration en cours pour le Parthénon. On doit transporter des gros blocs de marbre avec des lèvres-palettes sur ces mêmes cheminements. Cela devait être quelque chose de solide et de résistant.
Tassos Stanoulas, architecte et restaurateur des propylées pendant 40 ans, joint également par téléphone, réfute ces arguments avec une logique implacable.
Devant le Parthénon, l'inclinaison aurait été trop forte. Du coup, ils ont été obligés de demander à l'entrepreneur de réduire l'épaisseur du cheminement. Et lui, de son côté, les a avertis que la couche ne tiendrait même pas le lèvre-palette à vide, que la voie se casserait.
Alors pourquoi avoir travaillé au marteau-piqueur le rocher de l'Acropole? Pourquoi l'avoir fait en catimini, en plein confinement, quand personne ne pouvait contrôler les travaux? Pour Despina Kutsuba, archéologue et syndicaliste qui a révélé le poteau rose, il n'y a qu'une seule raison possible.
L'Acropole a environ 1 million de touristes par an et ce que nous demandons depuis des années, c'est une régulation des visites pour qu'il n'y ait pas ces énormes files d'attente l'été. À l'Acropole, ils n'acceptent pas de le faire. Pourquoi? Parce que les organisateurs des croisières veulent, quand ils accostent au Pirée, emmener les touristes directement sur l'Acropole. Ils en font vite le tour et de là, ils les emmènent manger dans une taverne et hop, retour bateau. Toute cette histoire est faite pour ça, hélas.
Cette passionnariat de l'archéologie appelle au respect des sites archéologiques qui peuvent et doivent être visités, mais pas profanés par un tourisme de masse.
Tu visites un monument construit au 5e siècle avant Jésus-Christ pour la population d'Athènes, pas pour celle des bateaux de croisière qui arrivent aujourd'hui au Pirée. On doit le respecter pour tout monument. Pour la chapelle Sixtine, qu'est-ce qu'on va faire? Ouvrir le toit pour que les touristes arrivent plus nombreux en parachute? C'est du même ordre.
Le ministère a expliqué qu'il s'agissait de rendre le site plus accessible aux fauteuils roulants, ce qui explique par ailleurs la rénovation de l'ascenseur, sauf que l'inclinaison des sols de plus de 6% est prohibitoire pour tout fauteuil roulant. D'ailleurs, aucune association de personnes à mobilité réduite n'a été consultée, comme nous l'a confirmé au téléphone Ioannis Vardokastanis, directeur de l'Association nationale grecque des personnes à mobilité réduite.
Nous n'avons pas été consultés pour les travaux, non. Mais comme disaient les Grecs anciens, à quelque chose malheur est bon. Il a donc été convenu avec le ministère que désormais, il y aurait une coopération sans faille pour tous les travaux à venir, et cela dès le début.
Kostas Stratis va plus loin. Pour cet ex-vice-ministre de la Culture, le handicap n'a servi que comme prétexte.
Je pense qu'ils ont voulu mettre à profit le 3 décembre, journée internationale du handicap, pour faire passer les travaux ascenseurs et bétonnage plus facilement. Mais les travaux sur l'Acropole ont une longue tradition. Il y a des programmes à respecter. On fait des symposiums, on discute, on examine toutes les possibilités. Là, rien de tout cela n'a été fait.
De fait, les travaux qui incluent également des tablettes explicatives en braille pour les non-voyants et l'illumination de l'Acropole ont été financés en toute opacité et sans appel d'offres par la Fondation Nassis. Une pétition circule sur Internet pour les stopper, car l'encerclement du Parthénon par ses bancs de 6 millibéton doit continuer dès cet automne. Thomas Jacobi d'Athènes pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité. Pour retrouver tous les numéros de Vue d'Allemagne, rendez-vous dans la médiathèque de notre site dw.com/français. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !